nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Éric Venet nous accompagne, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric.
Bonsoir Grégoire.
Et Étienne Gorgeon est avec nous également, responsable de l'activité obligataire de Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Grégoire.
Bon, un peu d'analyse des chiffres macro qu'on a pu avoir, à commencer par la croissance américaine du premier trimestre, moins 0,3% en rythme annualisé. Et on le disait en introduction, on en discutait même entre nous, cette contribution négative historique du commerce extérieur qui révèle quoi, Sophie? Des effets d'anticipation importants déjà de la part des agents économiques américains avant même la mise en place de tarifs douaniers?
Oui, tout à fait, c'était prévu. Donc la plupart des entreprises ont fait venir leurs intrants en provenance de Chine et d'ailleurs avant la mise en place des droits de douane. Et donc, en fait, on a un déséquilibre donc, du commerce extérieur américain qui est à un niveau historiquement extrêmement élevé, puisqu'on est à moins une contribution de 5% négative.
Moins 4,8.
Moins 4,8 au PIB. Alors, si on retraite de cet élément, quand même, on voit une économie américaine qui, dans ce premier trimestre, reste stable. Il n'y a pas, à proprement parler, d'écroulement de la consommation. Oui, on tourne aux alentours de 2%. Et évidemment, parce que les Américains n'ont pas encore vu les effets de la politique douanière sur les biens de consommation qu'ils sont à même d'acheter. Ils commencent juste à avoir des débuts de hausse de prix. D'ailleurs, on en parlait aussi au rentaine, mais la cote de popularité de Donald Trump commence à s'effriter un petit peu parce qu'il y a quand même des hausses de prix tangibles qui commencent à s'observer.
Ouais. Si on enlève effectivement le commerce extérieur et également, je crois, les dépenses gouvernementales, les dépenses publiques qui contribuent légèrement négativement à ce trimestre, toutes les autres composantes sont des contributeurs positifs, la consommation, l'investissement privé, etc.
Oui, tout à fait. Les dépenses publiques baissent aussi. On a vu le travail qui a été fait par le Doge.
Petit effet Doge, oui, sans
voilà,
doute.
Un petit effet Doge qui a quand même licencié 120 000 fonctionnaires, en en reprenant un certain nombre pendant le trimestre, mais effectivement des coupes. Franche, assez notable.
Bon, qu'est-ce que ça nous dit alors du trimestre écoulé, mais est-ce que ça nous apporte des enseignements sur la suite de la course de l'économie américaine une fois soumise aux tarifs, Étienne?
Ce que je trouve intéressant, c'est que il y a les indicateurs, ce qu'on appelle les soft data, donc toutes les études sont catastrophiques. Alors, on a eu le Consumer Board hier, que ce soit la confiance du consommateur, des chefs d'entreprise, il n'y en a pas un
qui dit
que ça va bien. Je dirais que c'est vraiment des niveaux aberrants.
Dépressifs, quoi.
On est en 2008 pour certains d'entre eux, vraiment à des niveaux. Et évidemment qu'on sait depuis 2022 que tous ces indicateurs sont beaucoup moins efficaces pour plein de raisons, que cette récession annoncée par ces indicateurs n'est jamais arrivée aux États-Unis en 2023, etc. Donc on regarde on regarde évidemment les données dures et surtout on se focalise sur les données dures à haute fréquence. Parce que c'est elles qui sont censées encapsuler les variations qui vont arriver dues à ces hausses de prix. Qu'est-ce qu'on voit pour le moment? On voit que, sur ces données à haute fréquence, on voit que les boîtes ne se débarrassent pas. Il n'y a pas de licenciement.
Non.
On voit que la consommation tient, et tient plutôt même de manière assez forte. Et on voit que dans certains secteurs, c'est vraiment difficile. Tout ce qui est logement, voyage, on parle de récession. Il y a le CEO de Southwest Airlines qui disait, mais nous, on est vraiment dans une grosse récession. Ouais. Et après, il y a des indicateurs qui sont plus ou moins avancés, qui sont des données dures, mais qui sont vraiment reliés à ce qui est en train de se mettre en place par l'administration Trump. On voit la baisse très marquée des ventes de camions. Et on est vraiment effectivement dans cette phase où on passe d'une récession technique à quelque chose d'autre qui pourrait être probablement un tout petit peu... Une récession technique, c'est pas très grave, a priori, puisque c'est dû à un choc qui est censé se normaliser. Là où ça va être réellement intéressant, c'est de voir dans quelle mesure l'implémentation des tarifs va se transformer dans quelque chose qui pourrait... sortir d'un cadre local ou sectoriel. Je m'exprime
quelque
un peu plus clair.
Quelque chose d'endogène et plus large.
C'est ça. C'est quand les retailers, quand les distributeurs américains disent on a du mal à alimenter nos rayons, quand les gérants de camions disent le fret, tout ce qui est fret, que ce soit le fret de bateau ou distribution par les camions, disent mais on a une surcapacité incroyable et qui commence à fermer, la question qui va se poser, c'est de quelle manière ça se propage. Et c'est probable qu'on voit d'abord les effets de ces faillites-là avant de voir les effets négatifs d'une consommation qui semble toujours assez résiliente.
Vous dites que c'est d'abord un choc d'offres massif pour les États-Unis, ouais. avec le risque que ce choc d'offres se diffuse et se traduise aussi par un choc de demande ultérieurement.
Exactement, et je pense qu'il va falloir jouer ces séquences, et c'est pour ça que ça va être un peu... ça va être un vrai challenge pour tout le monde.
Choc d'offres, ça rappelle le Covid. Hein.
Oui, exactement.
C'est, on se retrouve un peu dans ce même schéma-là. Hein.
Et exactement, et le vrai sujet, c'est le consommateur américain. On est toujours dans une phase de stimulus budgétaire, alors... Un peu moins, mais toujours pour l'instant. Encore une fois, il y a toujours cette histoire de budget. Et donc, il y a un consommateur qui tient. Il y a la réserve fédérale qui joue à plein son rôle. Elle injecte des liquidités, l'excès de réserve. Alors, même s'il a baissé au mois d'avril, il était quand même assez positif depuis le début de l'année. Un consommateur qui tient sous perfusion, j'aimerais presque dire... C'est un terme qui est peut-être un peu excessif, mais sous une forme de perfusion. Et on va voir quand est-ce qu'on va rentrer dans le dur avec une augmentation des prix et dans quelle mesure ça va nous emmener dans une récession plus cyclique, j'ai envie de dire.
Bon, c'est un peu 50-50, j'ai l'impression, cette histoire de récession pour les États-Unis cette année. Eric, quel est votre sentiment là par rapport à cette situation, partant des chiffres qu'on commente,
quoi. Je crois que vous l'avez très bien dit. Pour moi, ce n'est pas une récession, c'est boum, c'est un choc d'offres, en fait. Ben, l'exemple du Covid est assez bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'offre se bloque. Enfin, c'est pas... On sait que l'offre s'est bloquée. La demande s'est agrippée à l'offre qui restait, enfin, donc, d'où la consommation qui tient. Je dis, jusqu'ici, tout va bien. Après, quand les stocks sont épuisés parce qu'on n'a pas livré pendant X temps, alors, à condition qu'on relivre à nouveau parce que les choses se sont un peu éclairées, oui. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Donc, ça va durer un petit moment. Donc, cet écart-là, vous n'allez pas l'absorber tout de suite. Donc, on sait qu'on va de toute façon plonger. Et le consommateur, il attend de savoir la deuxième phase, c'est-à-dire est-ce que l'offre va revenir avec une certaine stabilité ou par à-coup, et auquel cas on refera à peu près la même chose de trimestre en trimestre. Donc c'est totalement logique, on n'a rien vu. Et donc économiquement parlant, on ne peut rien dire, en fait. Tout simplement que ça me paraît tout à fait normal. Bon, ça ralentit moins parce que... On a amélioré la consommation, mais le plus dur reste à venir.
Et dans la séquence, comment les choses se déroulent ? Partant d'un choc d'offres, c'est d'abord les prix qui vont réagir, c'est d'abord une inflation, quand bien même elle serait temporaire, qui va tout de suite se matérialiser assez vite, et puis ensuite on verra des dommages peut-être sur l'emploi, la consommation, etc.
Enfin, c'est d'abord la croissance, en fait, tout ce qui est quantité, parce que c'est pas...
Donc le marché du travail peut peut-être réagir. On a vu aussi, alors il y a eu tellement de chiffres aujourd'hui, il faudra peut-être quelques heures pour analyser tout ça, mais les chiffres ADP, création d'emplois dans le secteur privé, on verra ce que donne le rapport mensuel vendredi, mais sont déjà assez nettement en dessous des attentes. Ça reste positif, mais un cran en dessous de ce que tout le monde attendait.
On attend, et savoir comment ça va se passer, mais après on va forcément licencier si vous n'avez rien à vendre. Il y a une dichotomie entre les services qui sont, on ne sait pas comment ils sont touchés, à la douane, en bateau, c'est simple, voilà. Vous ne livrez plus. Mais dans les services, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est à modérer, en plus, avec la proportion de services et de consommation de biens industriels dans l'économie. Mais c'est pas les prix, c'est pas une question de prix, en fait. C'est une question brutale d'arrêt de l'économie.
Ah ouais, bien sûr. Ouais.
Et après, en fonction du comportement de l'offre, on verra si les prix... Il y aura mécaniquement des prix avec les droits de douane. Mais enfin, c'est pas ça la problématique pour l'économie, c'est la spirale. Je pense que pour l'instant, elle n'est pas prête d'être engagée parce que la demande va s'éteindre.
Sophie, le marché, c'est... Alors, on sort d'un mois d'avril très chaotique. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dire au marché à ce stade, mais il s'est positionné pour quel scénario ? On est passé par un quasi moins 20 du S&P. On a flirté avec la barre des moins 20 au pire du 8 avril, je crois. Il y a eu quand même un rebond de soulagement assez spectaculaire. Beaucoup d'indices, ou certains indices, sont revenus d'ailleurs sur les niveaux qui prévalaient avant Liberation Day du 2 avril. Donc c'est vrai que le mois d'avril offre peut-être pas, quand on regarde comme ça la photo finish, on voit des indices américains positifs sur le mois, etc. Peut-être que c'est pas une photo qui reflète réellement ce qui a pu se passer et ce à quoi le marché s'est préparé.
Alors le marché, ce qui est intéressant, c'est quand on décompose en fait ce mouvement, parce que le marché a quand même pleinement intégré, alors pas pleinement, mais a quand même pas mal intégré ce choc pour les valeurs exportatrices européennes, japonaises, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que bien que les marchés aient rebondi, ils n'ont pas rebondi avec les mêmes
valeurs. De la même manière.
Voilà. Donc il y a eu une dévalorisation des valeurs exportatrices très très fortes, transverses, hein, que ce soit au Japon, que ce soit en Europe, que ce soit toutes les valeurs qui ont beaucoup à perdre de ces droits de douane, se sont dévalorisées de façon extrêmement forte. Et dans le rebond, elles se sont contentées de rebondir en ligne avec le marché. C'est comme si on avait une marche d'escalier. Il y a eu une dévalorisation de ces valeurs. Et ce qui s'est beaucoup mieux comporté, c'est des valeurs qui ont une typologie ou bien tournée vers la demande locale, c'est le cas en Europe, puisque les valeurs qui permettent d'accompagner notamment le plan de relance allemand. Ouais. Les financières ont bien rebondi, les financières sont quand même tournées vers la demande interne. Donc l'idée des contre-feux, qui vont venir aider à absorber le choc des droits de douane. Donc toutes les valeurs qui sont sensibles à ça, demande interne ou demande pan-européenne, ouais, demande, etc., se sont plutôt mieux comportées, ont surperformé très fortement, ou bien les valeurs défensives. C'est comme si on redécouvrait qu'il y avait des dividendes dans les telcos.
Dans les utilities, voilà, tout est possible, etc. Oui, bien sûr, c'est les secteurs qui ont surperformé.
Donc en fait, le marché a rebondi, mais il n'a pas du tout rebondi en faisant abstraction de ce qui s'était passé. Le marché a intégré, il y a eu une grosse marge d'escalier sur les sociétés les plus sensibles, et maintenant on attend. Donc le marché, je ne dirais pas qu'il a ignoré, il n'a pas balayé cette question-là.
Il n'est pas passé à autre chose.
Non, il n'est pas du tout passé à autre chose, mais ce qu'il dit, c'est que, un, effectivement, c'est un choc d'offre, et qu'il suffit d'un mot pour que ce choc d'offre se résolve. Donc ce n'est pas un choc structurel qui viendrait d'une crise de la dette, par exemple, quelque chose de très profond qui viendrait détruire les perspectives économiques dans la durée. C'est un choc d'offre qui dépend du bon vouloir, entre guillemets, et de la réaction d'une politique. Donc si Donald Trump dit « c'est bon, j'ai gagné, et maintenant on va s'en sortir avec ça, on va rester avec nos 10%, puis ça ira », ça va aller.
D'accord. Mais donc un simulacre de victoire peut suffire effectivement à apaiser la situation.
Mais pour l'instant, nous, on n'en sait rien. Donc le marché, il s'est mis en position d'attente. Il y a eu une rotation en faveur des défensives, en faveur des entreprises qui adressent la demande locale et qui bénéficient des contre-feux locaux. Et il est resté à l'écart. Il s'est dessaisi, il a vendu les entreprises les plus fragiles et les plus liées au commerce mondial.
Ouais. Voilà.
Donc non, je pense pas que le marché n'a pas du tout ignoré ce qui est en train de se passer. Il s'est plutôt mis en position d'attente, je dirais.
Du point de vue des marchés obligataires, justement, qu'est-ce que les taux nous disent de la situation? Ça a beaucoup valdingué quand même.
Ouais, mais moi, si je regarde le marché qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le marché, c'est l'euro, enfin c'est le dollar.
Ouais, le dollar.
C'est le dollar parce que lui donne une vision, je trouve assez claire. Il y a une direction. C'est pas une lubie de l'administration américaine, c'est quelque chose de plus profond. C'est comme ça que j'interprète le mouvement sur le dollar.
Baisse de 10% pour le dollar pondéré, face aux grandes devises majeures depuis le sommet de janvier.
Parce que c'est pas un petit mouvement.
Ah non.
Et que c'est des mouvements qui s'intègrent souvent dans des cycles assez longs. Ouais. Donc c'est la première chose que je regarde, c'est lui qui dit attention, c'est pas une lubie, il y a quelque chose de structurel. On est peut-être dans un renversement de table à la Nixon, à la Reagan en 85, Nixon en 71, et peut-être que finalement Trump c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils ont pas le choix, il y a trop de dettes, faut renverser la table, faut trouver un moyen de réduire tous ces déséquilibres. Tous ces déséquilibres, que ce soit déficit commercial ou autre.
Et cette hypothèse-là, ça nous dit qu'on est loin du pic des tensions et des frictions, parce que dans un monde fragmenté comme il est aujourd'hui, à part passer par une coercition explicite, ouais, je ne vois pas comment vous mettez autour de la table les Japonais, les Chinois, pour dire c'est bien, alors le yen maintenant ça va être plus 30, voilà. Et je ne dis rien de la Chine, dont le yuan est au même niveau qu'en 2008. Hein.
Et ça, c'est presque un autre débat. Si on y touche tout de suite, moi ce que j'avais étudié dans la... de la fac sur les cycles, c'est que sur les 40 dernières années, on a créé l'expression est, pour être visible et peut-être un peu grossière, on a créé un magma de dette. Ce magma de dette est devenu... Les économies sont tellement financiarisées, pour faire simple, il y a 40 ans, avec un de dette, on faisait un de PIB. Maintenant, il faut plus de 5 de dette pour faire un de PIB aux États-Unis. Donc, ça marche plus vraiment. Et à chaque fois qu'on essaye de contraindre cette évolution-là, à la baisse ou même à la stabilité, on s'aperçoit que concomitamment, l'économie et les marchés réagissent négativement. Et donc, on se retrouve dans une équation qui est compliquée où il va falloir passer soit un rétablissement des déséquilibres commerciaux, et donc l'idée de tarif n'est pas bête, la méthode est discutable, mais l'idée de tarif n'est pas stupide.
Elle est même peut-être contre-productive.
Elle est même bien, mais eux, probable. Oui, effectivement. Et c'est vrai que Miran qui dit 2% par an jusqu'à ce qu'on atteigne une négociation, moi, ça me paraît ça me paraîtrait plus... Ouais,
l'aspect graduel, ça a été un peu graduel mis de côté dans l'implémentation de la stratégie par Trump.
Et négocier pouvait avoir du sens et tout le monde pouvait le comprendre que le côté probablement un peu plus massu à la Trump et Vance en particulier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je pense que de la même manière que ce qui se passe en Europe et en France en particulier avec de l'austérité, les Américains ne pourront pas y échapper. On parle Medicare, Medicaid. Ils ne peuvent pas y échapper. Moi, je rappelle juste un truc. Il y a 30 milliards de dettes. Il y a un tiers qui doit être relayé cette année.
Oui.
C'est ça qui ne marche plus. Et il y a deux... J'ai dit milliards, non, c'est trillions.
Trillions.
C'est 10 trillions, donc un tiers. Il y a 2 trillions de plus que l'année dernière. Donc, on est dans une spirale qui ne fonctionne plus. Et donc, la complexité, c'est qu'ils vont probablement faire une combinaison d'un petit peu d'austérité, d'un petit peu de tarifs, probablement qu'ils vont devoir ajuster, je ne sais pas trop combien, comment, parce que la dernière option, c'est de ne rien faire. Je pense que ce sera la pire pour tout le monde, à terme. Et je dois avouer que... Je dois avouer que le marché action, pour moi, me semble vraiment au perché quand j'intègre ça. C'est-à-dire que quand je me dis, si ça se trouve, on est... Et c'est peut-être la différence d'interprétation, et vraiment, je sympathise énormément avec le discours de Sophie, mais s'il devait y avoir une différence d'interprétation, c'est je me dis, si on est réellement dans un changement de paradigme, de politique économique,
financière, monétaire,
etc.
On n'a encore rien vu.
Et c'est un peu ce que me ferait comprendre le dollar, alors je me dis, le S&P est franchement au perché. Après, le dernier marché à regarder, évidemment, c'est l'obligataire. Là, il y a deux marchés, la partie crédit et la partie obligataire. Moi, je trouve que l'obligataire, c'est pas où il habite, aux États-Unis. On tape les 4,50, on revient. On sent quand même qu'il y a un problème lié au trop de dettes, mais qu'il y a un risque sur l'économie que le marché ne s'est pas acheté s'il doit d'abord prendre l'inflation et regarder ensuite la croissance, ou d'abord la croissance et après
sur la baisse des actions du jour, les taux, ils ne bougent pas.
En Europe, c'est beaucoup plus simple et c'est vrai que ça nous aide tellement. La BCE a une direction, elle peut la justifier, c'est simple. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans tout ce brouhaha général où tout le monde peut s'inquiéter de ne pas y voir beaucoup de clarté, le crédit, ça marche bien.
Ça résiste bien.
Ben, le crédit,
ça s'est un peu écarté quand même.
Le crédit en Europe, ça s'est un peu écarté, mais j'ai presque envie de dire, vu les challenges et quand même les moins 20 qu'on a vu sur les S&P et les corrélations historiques, on n'est quand même pas très loin du circuler, il ne s'est pas passé grand-chose.
Ah ouais. Okay.
En tout cas, sur le crédit européen, bon. C'est un peu moins vrai sur le crédit américain.
L'Europe, havre de paix, de modération... de médiocrité, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans monde, dans le jeu, c'est toujours pareil, c'est le beauty contest, hein, c'est le concours de beauté des marchés. Donc à partir du moment où la mariée américaine semble avoir perdu quelques plumes...
Vous avez répondu, Grégoire.
Ouais.
Non. Voilà. Non, je voulais dire, en fait, si la politique des États-Unis c'était un problème de dette, hein, ils se sont pris comme des manches, parce que finalement, tout ça ne se résout que par... avec un point, des points supplémentaires de taux d'intérêt. Parce qu'on a créé juste, on a généré de l'incertitude. La seule chose dont on est sûr, c'est que le monde est plus insécure qu'avant. Ça, c'est clair, en termes financiers.
Moins optimal, oui.
Voilà. Donc, si vous n'aviez rien fait, vous rajoutez je ne sais pas combien de points. En tout cas, c'est clair. C'est-à-dire que moi, si j'étais prêt à acheter à 4, maintenant, c'est 4,5. Enfin, peu importe.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, je ne vois pas la logique économique derrière. Ça, c'est clair. Je pense... Enfin, bon, je ne suis pas assez spécialiste là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'un problème de dette, ils ont tout faux. Après, si c'était pour baisser le dollar, bravo. Encore une fois, je ne suis pas sûr que derrière, ça soit...
Est-ce que c'est une bonne baisse du dollar ou pas, oui.
Voilà. Bon, donc, effectivement, quand on dit ça, l'Europe, finalement, on est bien dans notre Europe, finalement.
C'est un goût tactique ou c'est différent? Est-ce que cette fois, c'est autre chose?
Parce que pour une fois, on a de la chance, parce qu'en plus, nous, on a quelque chose endogène. C'est-à-dire que, on a le plan de relance allemand, on a l'Europe qui s'en met un peu sur l'armement. Et c'est pas par la demande. En fait, ça qui est très important, c'est pas un coup de keynésien et boum, et en armée en plus sur les déficits. Non, c'est profondément industriel et de côté de l'offre. Et donc, pour une fois, on coche toutes les bonnes cases, en fait. Alors, faudra pas que ça soit après perdu politiquement, mais donc je comprends. Si on rajoute le fait que dans le monde de la finance, l'Europe, on ne sait pas où c'est. On va peut-être découvrir où c'est. Donc, on va en plus bénéficier de flux de capitaux. Et ce qui est sur le gâteau, nous aussi, on avait un problème de dette. Et en plus, comme on part des États-Unis, venez chez nous. Donc, on va nous gagner la baisse de taux d'intérêt que les Américains vont perdre en hausse de taux d'intérêt. Donc, pour le coup...
Mais ça implique quoi ? Ça implique, pour un investisseur global, que oui, on peut avoir une surperformance, une performance relative des actions européennes dans le temps qui soit meilleur, ou en tout cas que dans l'écart temps, ouais, soit moins important avec ce qu'on a observé entre le marché américain et le reste du monde depuis deux ans,
ouais, alors Eric. Dans le temps, si on considère que tout ce qu'on vient de vivre, c'est un changement d'air. Mais j'en suis pas convaincu. Peut-être que dans deux mois, on aura oublié tout ça, que ce sera, enfin bon, pour les trucs, excusez-moi, j'avais, bon, enfin bref. Et qu'il sera passé à autre chose, il aura fait de la géopolitique, et du coup, l'économie sera moins...
Alors c'est sûr que dans sa séquence, à un moment, on va reparler de dérégulation, on va reparler de baisse d'impôts, etc. Ouais. Hein, BCN était là pour le rappeler hier. Là, on est dans le dur du dur. Trump le dit aujourd'hui, alors en moquant la réaction du marché action, qui est le marché action de Biden et pas le sien. Il dit, ça va être dur pendant quelques temps, mais après, vous allez voir, la croissance va être là. Une fois qu'on aura tout fait, il y a toujours cette promesse.
C'est valable s'il enchaîne assez vite.
Et le retail suit. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'investisseur retail, pour l'instant, lui, il continue d'appliquer la même logique. Le moindre creux de marché, c'est à mettre à profit pour continuer d'investir, de réinvestir et d'acheter notamment des Nvidia, des Amazon, etc. C'est ce qu'on a vu tout au long du mois d'avril. Hein.
Oui, parce qu'on n'est pas encore sûr qu'on ait changé de
Donc que les sondages baissent pour Trump, ok, mais l'investisseur particulier américain, lui, il continue de faire confiance au stock market
de Trump. Oui, parce
qu'il
y a un plan. On considère que, certes, bon, il y a eu un gros choc, ceci va un peu se calmer, on va à la limite peut-être linéariser tout ceci, et après, boum, très vite, je sors mon plan de ma poche et vous allez voir, et ça peut fonctionner, en fait. Ouais. Donc, dans ce cas-là, le plus optimiste, on aura perdu un trimestre de croissance avec quand même pas mal de morts sur le côté, mais bon, globalement, ça tient. Et puis, ça peut repartir un certain temps, mais et donc assez vite oublier cette séquence. Mais en tout cas... pendant quelques mois, on a encore ça à l'esprit.
Ouais.
Donc,
ça ne va pas disparaître aussi vite.
Ça ne va pas disparaître aussi vite.
Oui. Bon, et donc pour le marché européen, là, enfin, je veux dire, quand on regarde un peu les valos, les perspectives bénéficiaires, on est en pleine saison de résultats. Il y a de la place encore pour voir de la hausse en Europe.
Oui, d'autant plus que le marché réagit assez violemment, en fait, moi je trouve. Donc il suffit d'être contrariant, et puis en termes d'indice, je sais pas, en tout cas il y a de quoi faire ses courses tous les jours et de façon assez sereine et de rester sur l'Europe. Moi, et si vous voyez d'ailleurs depuis le temps que je parle des small et ainsi de suite, il y a un retour sur ces petites valeurs-là. Alors certes, elles ont pris moins 20 quand le marché, enfin les fameux jours, mais parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Mais ça revient. Et aujourd'hui, vous arrivez à faire de la performance avec un mix de small et des grosses caps européennes.
Ouais.
Et moi, je bouge pas de là.
Ouais. Sur la logique d'investissement, là, aujourd'hui, Sophie, est-ce qu'on décroche de l'idée de ce qu'on a vu du marché américain pendant deux ans ? C'est-à-dire cette concentration, ce qu'on a traduit par l'exceptionnalisme américain, une surperformance incroyable tirée par cette valeur, etc. Là, on va avoir les publications qui commencent pour les Mag 7. Enfin, est-ce que ce schéma-là est à ranger ou remiser sur l'armoire, au moins pendant un temps ?
Temporairement, on est en train d'assister effectivement à un rééquilibrage. Nous, on partage aussi l'idée que la configuration européenne est plus attractive. Elle est plus attractive qu'elle ne l'avait été depuis bien longtemps. Donc effectivement, on reste dans une incertitude très très forte. Vous parliez de pouvoir faire ses courses tous les jours. C'est lié aussi au régime de volatilité. Donc on avance, entre guillemets, à pas modéré, avec une relative confiance, mais à pas modéré. Je pense que du point de vue de l'investissement, il y a quand même, moi, le facteur qui me paraît le plus intéressant, c'est la question des obligations. C'est-à-dire qu'on est incapable d'acheter des obligations jusqu'à il y a encore quelques semaines, et qu'avec l'évolution qu'on a eue sur les taux, on retrouve en fait une attractivité, une asymétrie sur la partie obligataire, où non seulement on a une rémunération qui est supérieure à celle du... on a enfin de la pente.
Il y a de la pente, il y a un peu de pente.
On a enfin de la rémunération sur la partie la plus longue. On a le put de la BCE, donc l'action explicite de la BCE. Et puis, si effectivement, on a un trou d'air économique qui serait lié effectivement à ce choc, quand même, on a potentiellement 100 points de base de baisse dans les taux européens qui vont venir protéger les portefeuilles. Donc nous, on a vraiment, pour la première fois depuis maintenant 3 ans, on a eu, on a
remis
dans
des obligations,
remis de la duration, parce qu'il y a de la symétrie à nouveau, parce qu'on peut reconstruire des portefeuilles. Et puis après, en face de ça, effectivement, plutôt les idées de demande interne. C'est-à-dire que sur la partie où on n'a aucune idée de ce qui va se passer, c'est-à-dire les gagnants en fait du cycle précédent, parce qu'il faut bien voir que quand on regarde aujourd'hui les grands indices européens, toutes les premières lignes, c'est des grandes multinationales. Bon, ben, moins de multinationales, et puis plus d'entreprises qui servent la demande interne, pan-européenne, etc. Donc, il y a effectivement des choses qui sont intéressantes à faire. Vous mentionniez le crédit. C'est sûr qu'effectivement, dans une Europe qui se tient bien, avec des spreads de crédit qui sont un petit peu écartés, il y a probablement aussi des choses à faire dans le domaine du crédit. Avec un rapport rendement-risque qui est un petit peu plus intéressant.
Une Europe qui se tient bien, alors bon, 0,3% de croissance au premier trimestre, oui, c'est un peu mieux que prévu.
C'est un ennui agréable.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que pour des actifs, non, mais pour des classes d'actifs comme le crédit, pardon, c'est, je ne vais pas dire que c'est un sweet spot, mais si, c'est quand même un équilibre, ennui. Un agréable ennui. Ok.
Oui, peut-être juste compléter. Peut-être juste compléter par rapport sur l'Europe. Moi, je pense que l'Europe a fortement souffert du fait que à côté d'elle, il y avait les États-Unis qui mettaient une charge de dette spectaculaire, qui a favorisé des marges incroyables au plus haut. Les baisses de taxes, ça aide énormément les marges. Enfin, tout ça, ça a été prouvé et expliqué de manière académique. Ces déficits budgétaires qui étaient 2 à 3 points, parfois jusqu'à 5 points de plus que chez nous. Et donc, on se retrouve. Et puis, évidemment, bon, l'IA et ce boom, c'est vrai que l'Europe faisait pas le figure. Mais depuis qu'on commence à comprendre que l'exceptionnalisme américain, c'est dans le meilleur, l'IA, et aussi dans le pire étant du déficit sur du déficit, et que cet exceptionnalisme s'explique en grande partie dû à l'utilisation du budget et du bilan de la Fed, et également des résultats concrets de choses qui sont parfois même désespérantes. Enfin, il y a ce ratio justement qui s'appelle le ratio de la désespérance aux États-Unis. L'espérance de vie des Américains pour un pays développé, c'est la seule qui décroît.
Ça vous dit que c'est l'autre face de l'exceptionnalisme américain. On a vu le bon côté, le marché a vu le bon côté, mais il y a aussi un revers à cet exceptionnalisme un peu forcené.
C'est 43% d'obèses, c'est un taux de suicide qui dépasse toutes les normes des pays développés. C'est une classe moyenne qui a été fortement challengée, qui a fortement souffert sur les 10, 20, enfin, sur l'envolée de la globalisation. Et tout ça, ça se retrouve également, évidemment, dans les votes. Et peut-être que les marchés sont en train de se dire, c'est vrai que l'Europe, ça nous a jamais fait vraiment rêver, que nous, dans les marchés, on aime bien rêver un petit peu, on aime bien acheter des choses qui sont un petit peu qui brillent.
Et puis là,
d'un seul coup, ça brille beaucoup moins de l'autre côté de l'Atlantique, et du coup, ça rebrille un tout petit peu plus chez nous. Et c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, à voir si ça va durer. C'est la question. Donc, est-ce que c'est une politique de transition, politique structurelle
Sur la pente des courbes de taux, là, enfin, ce phénomène de pontification, il y a encore de la place. C'est encore un mouvement, aux États-Unis et en Europe, d'ailleurs, c'est encore un mouvement
En Europe, je pense qu'on est vraiment proche de la fin. Je pense que le marché anticipe un peu trop de bonnes nouvelles sur les baisses des taux. Je pense qu'il y a un peu trop de baisses de taux de mon point de vue. Aux États-Unis, je dois vous avouer que je ne touche plus la courbe américaine depuis un mois et demi, deux mois, parce que, encore une fois, c'est toujours cette question dont on parle tous les quatre depuis tout à l'heure. C'est la séquence. Moi, je pense que c'est d'abord l'inflation et après la baisse de la croissance par la chute de la consommation. Et si j'ai raison, ça va faire très mal sur la courbe américaine et ça va pas être une pontification, mais un aplatissement assez méchant. Et évidemment, si j'ai tort, si la croissance commence à peiner très vite, la pontification, il y en a encore pour 150 points de base, probablement.
Pontification par la baisse des taux courts.
Par la baisse des taux courts.
D'accord. Ouais. En cas de récession, comment réagissent les taux longs américains ?
Si vous avez récession, pontification et pontification violente.
Ouais.
Si c'est l'inflation qui tape en premier, qui refait surface en premier, j'ai peur que ça soit très compliqué pour le marché obligataire parce que les taux courts vont remonter fortement.
Ouais, donc on va voir la courbe se réaplatir. Ouais.
Et c'est pour ça que je ne touche pas à la courbe américaine. C'est parce que je travaille énormément, j'adore mon métier, mais sincèrement, je n'arrive pas à savoir lequel va le prendre. Je pense que l'inflation va arriver avant, ça me paraît le plus logique. Ouais. Mais et c'est aussi pour ça que je ne touche pas au taux. Je pourrais mettre un short, mais j'ai pas assez de conviction. Donc on reste tranquillement en Europe.
Bon, on suivra les chiffres. On va avoir des chiffres d'emploi là cette semaine. Et puis la Fed qui se réunit la semaine prochaine aussi. Là, dans ce contexte, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter comme message, Eric?
Ouais, juste un air sur le scénario rose obligataire en Europe, il y a un souci qu'on a loin d'être réglé, c'est le déficit français et la finance, voilà.
Oui.
Parce que en fait, à un moment donné, ça va. Non, mais oui. Ok. Oui, pardon. Ouais. Parce que effectivement, mon scénario macro Europe est basé sur la relance allemande essentiellement, et donc un effet d'entraînement aussi sur l'Europe. Mais,
donc, et des pays périphériques, qui se retrouvent dans des positions beaucoup plus saines.
Qui, eux, sont déjà, bien l'Europe du Sud, bien partis. Donc en fait, ça, le moteur allemand. Il ne faudrait pas qu'on ait un choc politique en plus en France, en fait, qui nous ferait...
Quand on a l'Allemagne qui relance, quand on a les périphériques qui sont sortis, qui ont assaini leurs comptes publics, est-ce que ce qui se passe en France, c'est grave?
Alors, à mon avis, si vous avez encore une dissolution ou un saut, le gouvernement qui saute, on n'a rien réglé. On sait qu'on a un mur, ça c'est clair, et donc ça reviendra de toute façon. C'est pour ça que je suis pas à l'aise avec l'obligataire. Sur les crédits, oui, sur l'OAT, sur les taux longs européens, je ne suis pas non plus très à l'aise. Alors, américain, je ne touche pas
non plus.
Après,
c'est plus facile de faire un ajustement seul quand les autres ont fait déjà les ajustements. Qu'on ne soit pas tous obligés d'être en même temps dans l'austérité, c'est pas mal non plus. Ça laisse un peu de place, à la France, pour prendre le temps de faire ce travail nécessaire.
Prendre le temps de faire
justement. Tout le monde doit faire, ou quand on pousse tout le monde à faire de l'austérité en même temps, c'est là qu'il y a un problème. Là justement, il y a des effets de balancier différents autour de la France.
Alors, pour revenir à la question, je pense que la BCE nous aidera avec déjà la baisse des taux courts, mais. Au niveau aussi du bilan, certainement. Enfin, si, donc,
En cas de bête sur la
dette française. Ou pour aider, parce qu'il y a quand même un problème de financement. Enfin, on sort pas comme ça 500 milliards d'un chapeau. Donc voilà, en plus, on a le put de la Banque Centrale. Donc,
bon. La France, c'est grave alors, du coup, dans le paysage macro, de marché, Sophie?
Honnêtement, on est bien embêté. C'est, entre guillemets, c'est un peu le maillon faible en ce moment.
L'Allemagne, elle a été pendant 4 ou 5 ans.
Absolument. Dans tout le scénario européen, et c'est difficile de voir comment tout ça va se redessiner. C'est difficile de voir ça s'améliorer beaucoup, honnêtement, sur le front des finances publiques. La difficulté à faire passer le moindre mouvement, la moindre réforme, le moindre effort et... Donc non.
Mais ça veut dire, c'est complètement déconnecté de l'investissement, en action européenne.
Relativement quand même.
Ouais, d'accord. Oui. Il n'y a pas une prime particulière sur les actions françaises liées à cette situation nationale de nos finances publiques.
Non.
Ouais. Bon. Voilà. Tiens, question sur la France, du coup.
La France, je trouve, c'est toujours c'est évidemment les sujets qui nous passionnent, mais. Avec tout ce que le pays a vécu entre la dissolution, tout ce qui s'est passé, moi je trouve que la structure économique et ce dernier budget que moi je trouve pas bon parce que austère, je trouve que l'économie française montre une résilience, je trouve absolument incroyable. Ensuite, on est plutôt dans une phase de.
Ça me rappelle l'Allemagne avec le choc énergétique un peu.
Mais c'est ça.
Oui, l'Allemagne n'a pas fait de croissance pendant plusieurs années, mais ça aurait pu être un effondrement de la croissance allemande.
Et on s'effondre pas parce qu'il y a une richesse. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des marges de manœuvre. Après, il y a une volonté politique, et c'est tout ça qui inquiète énormément à la fois plus les investisseurs que réellement les marchés pour l'instant, parce que quand même, franchement, avec toute l'incertitude, notamment pendant la période où on n'avait pas de gouvernement, finalement, le spread, il s'est pas non plus envolé. Donc, on comprend bien que la France, il y a plein de choses à faire, et tout le monde sait ce qu'il faut faire, c'est simplement qu'il faut un peu de courage politique, et il y a toujours un espoir qu'à un moment ou à un autre, on puisse y arriver, et que en attendant, finalement, ça tient à peu près. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un environnement macro relativement désinflationniste, et que si la BCE devait intervenir, elle est beaucoup plus libre que la réserve fédérale.
J'entends.
Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Moi, je reste un optimiste sur les hauts fonctionnaires français. Je me dis que dans les périodes vraiment compliquées, ils savent faire les choses, mais c'est toujours à la dernière minute, quoi, le dernier quart d'heure.
On aura fait le tour de table sur la France. Logique d'investissement, terminons avec ça. On n'a pas parlé des émergents aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier aussi dans le contexte actuel sur des zones émergentes qui ont été un peu hasardeuses jusque-là, hein, pour dire les choses.
Zone émergente, c'est probablement en devise locale. Évidemment, en dollars, y a toujours la problématique du hedge ou de la baisse du dollar lui-même, du coup, en fait. Donc ça reste un sujet. Mais effectivement, il y a des choses intéressantes à faire pour les clients en quête de diversification. Après, en Europe, moi, ce que j'aime bien en Europe, dans le crédit, encore une fois, taux un petit peu moins en ce moment parce que trop de bonnes nouvelles pricées, je pense. Mais dans le crédit, on arrive encore à faire des portefeuilles de à peu près 4 à 4,5 sans prendre des risques démesurés. Mmh. Et si on veut pousser un peu plus, on s'aperçoit... Je ne sais pas si vous vous rappelez, Grégoire, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais dit les résultats des boîtes en Europe, donc des ETI que nous, on finance, c'était de la résilience dans la médiocrité. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'expression. Oui. Là, maintenant, le message, c'est ça va plutôt pas trop mal, mais on est dans control the controllable. Parce qu'effectivement, il y a cette incertitude liée à ce que font les États-Unis. Et donc, ce n'est pas la top line qui souffre, c'est plutôt les dépenses de CAPEX, c'est plutôt ce type de choses qu'on voit. Et si on se focalise sur des sociétés donc de taille intermédiaire, comme nous, on aime bien les financer, plutôt avec une économie locale, vous pouvez faire des choses qui sont assez simples à expliquer à vos clients, du 3 ans avec du 5, 6, même pour certains portefeuilles, j'ai des portefeuilles à 7%. Donc, vous avez un échelonnage assez sympathique en fonction des maturités. Et encore une fois, avec ce support potentiel de relance économique en Europe. Moi, ce qui le contrôlable m'embête beaucoup moins que c'est la top line qui souffre. Et donc, je trouve que c'est un environnement qui est plutôt plutôt sympathique,
agréable. Eric.
Les émergents, je peux pas trop en parler. Par contre, la partie qu'on mettrait dans mon portefeuille émergent, je la mets dans les mines d'or. Donc, mais depuis un petit moment déjà. Je garde. Là, c'est pareil. Enfin, vous avez une volatilité qui est impressionnante. Mais plus que l'or, vous avez les mines, parce qu'en plus, vous gagnez sur les deux tableaux en termes d'entreprise.
Ça paye, c'est bien corrélé au cours de l'or ou
Mais en plus, vous avez une baisse des coûts. Des mines en fonction du prix d'énergie. Après, il y a l'effet devise. Donc, je suis à au moins 10% sur les minières.
Minières aurifères. Bon, Sophie, moi, je voulais bien un petit mot des émergents. Je sais pas.
C'est
un domaine que vous connaissez bien.
Oui, tout ce segment-là, j'aurais tendance à dire que tant qu'on est dans un tel monde d'incertitudes, et notamment sur toute la partie asiatique, c'est quand même toute la supply chain, toutes les chaînes d'approvisionnement mondial. En lien avec la Chine, etc. C'est beaucoup, beaucoup trop compliqué pour le moment pour vraiment aller faire ses courses là-dedans. On a besoin d'y voir un petit peu long. On avait remis des positions sur la Chine, dans le sillage de l'assouplissement du gouvernement, l'histoire d'IPSIC, etc. On a rétroparlé très, très rapidement. D'accord. On est ressorti très, très rapidement.
Ça tient bien, ce marché chinois.
Ça tient. Mais c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et on n'a pas, à ce stade, la Chine ne sort pas le bazooka.
Non.
On n'est pas du tout en train d'essayer d'accommoder ça. On est plus dans le... Je pense que le gouvernement chinois s'inscrit plus dans la durée en disant, nous, on a le temps. Oui, on peut... De toute façon, nous, on peut prendre un peu de souffrance.
Qui appellera l'autre le premier, quoi.
Voilà.
On est toujours un peu...
Et donc, c'est pas... C'est vraiment... Ça reste très, très compliqué. Hein. Toute cette chaîne de valeur...
Effectivement, c'est une phase de la mondialisation, enfin une nouvelle étape de la mondialisation, une recomposition de la mondialisation à minima. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire de Sanso Longchamp Asset Management.